J'ai une très bonne question pour vous. Quelle attitude est-ce qu'un croyant doit avoir envers son patron? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a vraiment de très bonnes questions à poser à la parole de Dieu aujourd'hui. Mes amis, que vous soyez un mari ou une épouse ou l'enfant de quelqu'un ou un employé, il y a quelque chose de vraiment bon à tirer de l'instruction qu'on va recevoir en réponse aux questions que voici. Devons-nous toujours pardonner à ceux qui nous font du mal? Qu'est-ce que nous devons faire pour que la parole de Dieu demeure en nous et pour qu'elle dirige notre vie? Comment pouvons-nous savoir si notre conduite est réellement chrétienne? Que signifie l'expression « être rempli de l'Esprit » Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la soumission de la femme envers son mari? Est-ce qu'un enfant doit se soumettre à ses parents toute sa vie? Est-ce que les parents ont le droit d'agir en dictateur envers leurs enfants? Quelle attitude est-ce qu'un chrétien doit avoir envers son patron? Sur quoi est-ce que Dieu va se baser pour récompenser les croyants au ciel? Restez avec nous, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on voit dans toutes les choses pratiques de la vie combien on a besoin de toi. Enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous à être des bons citoyens, qu'on puisse être des bons pères, des bonnes mères, de bons enfants envers leurs parents, de bons employés pour nos patrons, de bons patrons envers leurs employés. Enseigne-nous le comportement que tu veux qu'on ait pour qu'on reflète ta gloire, Seigneur, pour qu'on donne le goût de toi à tous ceux qui nous entourent. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons affirmé que ceux qui refusent de se repentir goûtent à la colère de Dieu. Ensuite, nous vous avons demandé qui occupe la première place dans vos pensées et dans votre vie. Certains chrétiens ont les mêmes priorités que le monde. Ils font passer certaines choses avant Dieu. Le Seigneur Jésus doit avoir la première place dans notre vie. Nos façons de faire et de réagir ne doivent pas être celles du monde, par exemple. Il faut renoncer à la colère, à l'animosité et à la méchanceté. De plus, nous avons vu que calomnier signifie blasphémer. Nous pouvons calomnier ou blasphémer Dieu parce que nous le haïssons. Nous pouvons aussi blasphémer un autre chrétien. Nous devons éviter le langage injurieux et le langage grossier. Nous sommes appelés à refléter l'image de Jésus-Christ en nous. Nous devons le représenter. Et ce type de langage ne convient donc pas. Il faut utiliser un langage digne de notre Sauveur. La nature n'aime pas le vide. Si nous nous dépouillons de notre vieil homme, il doit être remplacé par l'homme nouveau. Cet homme nouveau est le Seigneur Jésus lui-même. Nous devons le laisser travailler dans notre cœur. Il y fait des merveilles. Par exemple, nous avons vu qu'il a rapproché les Juifs, les Grecs et les barbares dans un même corps, son Église. C'est la grâce de Dieu dans nos cœurs qui accomplit ce genre de miracle. Nous avons aussi examiné le vêtement que doit revêtir le nouvel homme, et nous avons remarqué que sa description correspond parfaitement aux fruits de l'Esprit. La compassion, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience sont le fruit de l'Esprit. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus a déclaré à ses disciples qu'il était le cep ou le tronc de la vigne, et que eux étaient les sarments ou les branches. Sans relation intime avec le Seigneur, nous ne pouvons pas porter de fruits. De même, Jésus a invité les chrétiens de Laodicée à lui ouvrir la porte de leur cœur. Il veut une relation intime avec eux. parce qu'ils sont devenus tièdes, ils n'ont plus de puissance spirituelle, et ils ne s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, nous reprenons notre étude au verset 13, chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Chers amis, débutons notre lecture, Colossiens 3, verset 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Que faire lorsqu'un frère mérite un blâme? L'apôtre Paul traite aussi des situations dans lesquelles un frère dans la foi mérite un blâme et qu'une plainte est justifiée. Que devons-nous faire dans de telles circonstances? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Cela ne veut pas dire que nous permettons à tous de nous piler sur les pieds. Cela signifie que lorsqu'un problème se présente, nous allons vers l'individu afin de le régler. Il y aura toujours des gens avec qui vous ne pourrez pas discuter pour régler un problème. Nous devons nous rendre compte de cela. Lorsque le Seigneur Jésus a dénoncé les pharisiens, il n'a pas parlé de pardon. Il n'a fait que les dénoncer. De plus, ils n'ont pas demandé à Jésus de leur pardonner. Ils ne voyaient pas leur tort. Paul dit que puisque le Seigneur Jésus nous a tant pardonné, cela ne fait pas de mal à pardonner à quelqu'un qui nous a pilés sur les pieds. Nous devons pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonnés. Nous rencontrons souvent des chrétiens qui se querellent et qui refusent d'aller vers l'autre partie pour régler le problème. Ils affirment « C'est lui qui a mal agi et c'est à lui de me demander pardon ». Prêtez attention aux deux citations qui suivent. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. L'Évangile selon Matthieu chapitre 5, les versets 23 et 24. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 15. Que nous soyons celui qui a fait du tort à l'autre, ou que nous soyons la victime, le Seigneur Jésus nous demande de faire un effort sincère pour rétablir la paix dans son Église. Revenons au texte de Colossiens, chapitre 3, lisons les versets 14 et 15. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Ces versets mentionnent deux fruits de l'esprit, l'amour et la paix. Brabeo, le mot grec traduit « régner », signifie aussi « arbitrer ». La paix de Dieu devrait contrôler nos cœurs. Nos décisions et nos actions doivent avoir pour but de faire régner la paix dans l'Église. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. De nombreux chrétiens mettent l'accent sur la bonne doctrine et veulent conserver la foi fondamentale. C'est important. Et je mets l'accent sur cela aussi. Cependant, souvent nous entendons des individus proclamer l'importance d'étudier la Bible, mais nous les voyons rarement aux études bibliques, et ils ne connaissent pas bien les Écritures. La parole de Christ. Le Seigneur Jésus a dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jean chapitre 15, verset 3. Nous prenons le temps de nous laver avant d'aller à l'église, mais le meilleur bain est une étude de la parole le samedi soir. La parole demeure-t-elle en vous pour vous gouverner? Le mot grec traduit « demeure » est « eunokeo » et il signifie, au sens métaphorique, « demeurer dans quelqu'un et l'influencer ». Autrement dit, la parole demeure en nous et gouverne la maison. Nous devrions connaître la parole de Dieu. Elle ne devrait pas être un livre avec lequel nous ne sommes pas familiers, comme c'est le cas de nombreuses personnes aujourd'hui. Et que la paix de Christ règne dans vos cœurs. La paix de Christ doit être l'arbitre. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. La parole de Christ doit se sentir chez elle dans notre cœur. Jésus veut que nous le connaissions et il se révèle dans sa parole. Regardons le Seigneur Jésus par la fenêtre qu'est la Bible. Étudions la parole et sachons ce qu'elle nous dit. Aujourd'hui, le Seigneur vous parle par sa parole. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes et par des hymnes, par des cantiques spirituels. Laissons la parole de Dieu avoir son influence purificatrice dans nos cœurs. Chantons à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Je ne sais pas si vous avez une belle voix ou les aptitudes pour chanter, mais quoi qu'il en soit, il devrait y avoir de la musique dans votre cœur. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voulez-vous une norme pour évaluer votre conduite chrétienne? Voulez-vous un principe plutôt qu'un code de règlement de toutes sortes? L'apôtre Paul nous donne un principe dans ce verset. Il ne dit pas que nous devons ou ne devons pas faire. Il dit simplement, « Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Mes amis, tout ce que vous faites, que ce soit au travail, au foyer ou sur le plan social, peut-il être fait au nom du Seigneur Jésus? Lorsque vous faites quelque chose, le faites-vous au nom du Seigneur Jésus. Le faites-vous pour votre Sauveur et Seigneur Jésus. Si oui, n'hésitez pas à le faire. Un principe ou une norme pour nous évaluer vaut mieux qu'un code de loi et de règlement. Que signifie être rempli de l'Esprit? Maintenant, Paul aborde la marche chrétienne ou la vie chrétienne au foyer. Vous noterez qu'il traite des mêmes choses qu'il a traitées dans l'Épître aux Éphésiens. Là, il leur a dit d'être remplis du Saint-Esprit et il leur a donné les mêmes instructions. Ici, dans l'Épître aux Colossiens, avant de leur donner ces instructions, il leur a dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Que signifie être rempli de l'Esprit? Cela signifie être aussi rempli de la parole de Dieu. La Bible est inspirée par l'Esprit de Dieu. Si la parole de Dieu demeure en vous, dans toute sa richesse, alors vous êtes rempli de l'Esprit. Je ne crois pas que nous puissions être remplis de l'Esprit ni servir le Seigneur Jésus sans bien connaître sa parole. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Maintenant, si la parole du Seigneur Jésus demeure en vous, dans toute sa richesse, elle transformera votre vie et elle aura aussi une influence dans votre foyer. Lisons Colossiens 3, verset 18. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. » La soumission biblique est une réaction à l'amour du mari. Dieu demande cela afin qu'il y ait de l'ordre dans un foyer. Le but n'est pas d'avoir des maris dictateurs. Dieu n'a pas donné l'autorité du foyer au mari afin qu'il fasse de sa femme une servante. Je ne crois pas que Dieu demande à une femme de se soumettre à un mari non sauvé qui est violent ou qui exige qu'elle fasse des choses non compatibles avec une marche chrétienne. Une femme a écrit au pasteur McGee et lui a dit que son mari était un homme non sauvé. Lorsqu'il buvait, il la battait. Elle pensait qu'elle devait demeurer avec lui parce qu'elle était chrétienne. McGee lui a plutôt conseillé de quitter son mari. « Je ne crois pas que Dieu demande à une femme de demeurer avec un mari alcoolique », a expliqué McGee. Elle perd son estime de soi, elle perd sa dignité et elle se retrouvera au même niveau que lui si elle se soumet au comportement inadmissible du mari. Dieu dit de se soumettre comme il convient dans le Seigneur. La soumission qui convient au Seigneur est une réaction à l'amour du mari pour sa femme. Verset 19. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'égrisse pas contre elle. La femme est invitée à se soumettre à un mari qui l'aime. Elle ne doit pas prendre l'autorité dans le foyer, mais encourager son mari à la prendre. » Le pasteur McGee a dit, « Je pense que nous avons pris une fausse route. Dans mon ministère, j'ai retiré le mot « obéir » de la cérémonie de mariage. Je ne crois pas qu'il devrait en faire partie. » Poursuivons la lecture de Colossiens 3, verset 20. « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Un commandement pour les enfants mineurs. Je précise, pour les enfants mineurs. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Ils doivent les honorer toute leur vie. Mais lorsqu'ils sont mineurs, ils doivent obéir à leurs parents. Cependant, un enfant a besoin de grandir. Ce verset ne dit pas qu'un garçon de 24 ans doit dépendre de ses parents. Qu'il soit marié ou célibataire, lorsqu'il a atteint la maturité, il est prêt à quitter le foyer familial. Je pense que c'est Dieu qui a disposé les adolescents à quitter le domicile familial. Ils atteignent une période dans leur vie où ils doivent apprendre à devenir indépendants. Certaines publications affirment que les jeunes couples mariés doivent toujours obéir à leurs parents. Je pense que ce n'est pas le cas, et que cet enseignement n'est pas biblique. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse, chapitre 2, verset 24. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, est un commandement qui s'applique aux enfants mineurs. Colossiens 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Les parents sont-ils des dictateurs ou des guides pour leurs enfants? Selon la loi mosaïque, le commandement cité dans l'Épître aux Éphésiens et dans celle-ci ne s'appliquait qu'aux enfants. Est-ce que la loi donnait les droits d'une dictature aux parents qui ont des enfants? Les parents sont-ils des dictateurs ou des guides pour leurs enfants? Le livre des Proverbes révèle clairement que les parents ont la responsabilité de découvrir la volonté de Dieu pour leurs enfants. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Maintenant, l'apôtre Paul va traiter de la sainteté au travail. Nous allons discuter de la relation entre les patrons et les employés. Colossiens 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Quel patron devons-nous craindre? L'apôtre Paul dit de ne pas travailler en gardant un œil sur l'horloge. Il recommande plutôt que nous gardions un œil sur le Seigneur Jésus. C'est lui que nous servons avant tout. C'est avec cette attitude que nous devons travailler. Parfois, les chrétiens affirment être consacrés au Seigneur et désirent le servir, mais ils sont paresseux. Un chrétien devrait être un employé modèle et avoir une conduite exemplaire dans son milieu de travail. Un ami chrétien a pu témoigner à son travail parce qu'il a attiré l'attention par une bonne attitude envers l'employeur et les employés. Nous ne pouvons pas être paresseux au travail et dire que nous sommes un chrétien consacré à Jésus-Christ. Les deux sont incompatibles. L'apôtre Paul avait résumé la vie chrétienne à l'essentiel. Il avait un unique but, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà la vie de Paul en résumé que nous retrouvons dans l'Épître aux Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Ses yeux, ses pensées, son cœur et ses affections étaient tous portés sur Jésus-Christ. Le texte nous dit, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Ce n'est pas le patron terrestre qu'il faut craindre, mais le patron céleste, celui qui siège auprès du Père céleste. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Une norme pour déterminer ce que nous pouvons faire. L'apôtre Paul nous demande de tout faire de bon cœur, c'est-à-dire avec zèle et joie. Nous ne devons pas aller au travail à reculons. Si nous ne pouvons pas faire quelque chose pour le Seigneur avec enthousiasme, qu'importe ce que c'est, alors c'est mal pour nous de faire cette chose. Des personnes me demandent si c'est bien de faire telle ou telle chose, ou si c'est bien d'aller à tel endroit. Voici la norme pour le déterminer. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Ceci s'applique à tout. Si vous ne pouvez pas fréquenter une église avec enthousiasme, je vous recommande d'en trouver une autre. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Quoi que nous fassions, il faut chercher à plaire à Dieu et non aux hommes. Colossiens 3, verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ, le Seigneur. Nous représentons le Seigneur Jésus ici-bas sur terre. Peut-être que vous n'avez pas à rendre des comptes quotidiennement à votre patron, ou peut-être pouvez-vous travailler de votre domicile, ou peut-être votre patron est souvent absent, et vous en profitez pour ne pas faire une pleine journée de travail. Cependant, le Seigneur Jésus vous voit, car il est omniprésent. Vous devrez lui rendre des comptes un jour, parce que vous êtes en lui et que vous lui appartenez. Nous devrons rendre des comptes au Seigneur Jésus au sujet de notre vie entière. Nous représentons le Seigneur Jésus ici-bas sur terre. Il saura si nous, ses représentants, lui ont été fidèles ou non. De nombreuses personnes humbles dont nous n'avons jamais entendu parler et qui ne font pas les manchettes ont été fidèles au Seigneur dans leur milieu de travail. Ces personnes ont été fidèles à leur employeur, à leur église, à leur foyer et à leur pasteur. Très peu de gens en ont entendu parler. Cependant, le Seigneur sait tout à leur sujet. Elles recevront une récompense. Nous serons étonnés de voir la récompense que recevront certaines personnes. Servez Christ le Seigneur. Ceci nous fait voir notre service chrétien sous un autre angle. De nombreuses personnes dans l'œuvre sont paresseuses. En fait, la paresse est une malédiction dans les milieux chrétiens. Ce n'est pas rare de rencontrer des paresseux parmi le personnel des églises. C'est facile de s'adonner à la paresse lorsque personne ne nous surveille. Nous devons nous rappeler que nous servons le Seigneur Jésus et qu'il nous demandera des comptes un jour. Colossiens 3, verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme. Dieu nous jugera et nous récompensera selon notre fidélité. Le Seigneur Jésus rendra justice à tous, et il n'y aura pas de favoritisme. Les amis du parti n'auront pas de privilèges spéciaux. Dieu est juste, et il n'ira pas à l'encontre de sa propre justice. Servir Dieu est un privilège. Enseigner l'école du dimanche est un privilège. Cependant, ne pensez pas que cela fait de vous une personne spéciale. Lorsque le Seigneur vous jugera, il vous récompensera selon votre fidélité. Nous serons tous jugés sur ce point, et Dieu n'a pas de préféré. Écoutez ce texte, tiré de 1 Corinthiens chapitre 4. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Mes amis, nous sommes unis à Jésus-Christ et il est vivant, c'est merveilleux. Je ne pourrai pas m'unir à lui par mes propres efforts. Cependant, il a promis de m'aider. Seul l'Esprit de Dieu en moi peut m'aider à répondre à son appel. Jésus-Christ veut que je reflète sa gloire dans toutes les relations que j'ai ici-bas sur terre. C'est un appel glorieux que nous avons. Ne regardez pas au petit bébé de Bethléem, mais au Christ Jésus vivant qui est assis à la droite de Dieu le Père. Chers amis, prochaine émission, Colossiens 3, verset 22 à chapitre 4, verset 18.
Merci, Régin. J'ai vraiment trouvé intéressant tout ce qui nous a été enseigné dans la parole de Dieu aujourd'hui. Mais puisque je ne suis pas l'épouse de qui que ce soit, et puisque je n'ai plus à me soumettre à mes parents, J'aimerais m'arrêter sur ce que tu nous as dit au sujet de notre comportement envers nos patrons. Mes amis, avant d'être une enfant de Dieu, j'étais dans le domaine artistique. Et la plupart du temps, j'étais mon propre patron. Toutefois, quand je faisais une émission de télé, j'avais à me soumettre à un réalisateur. Certains étaient réellement bons envers moi et d'autres un peu moins. Mais ça allait. Quand je donnais un spectacle dans un cabaret, alors c'était le propriétaire de ce cabaret qui était mon patron. Et je ne me souviens pas d'avoir eu trop de difficultés avec ces gens. Toutefois, quand je suis devenue une enfant de Dieu, j'ai décidé de ne plus gagner ma vie dans le domaine artistique. Parce que j'ai demandé à Dieu de prendre tout mon cœur. Alors maintenant, je veux tout faire pour la gloire de Dieu. Et dans le domaine artistique, il est très difficile de ne pas faire les choses pour notre propre gloire. Je pourrais vous dire que la vedette en moi est morte et que l'enfant de Dieu que je suis devenu désire ardemment servir son maître merveilleux, le Seigneur Jésus. Donc, j'ai eu toutes sortes de patrons après ma conversion. Certains ont été très bons envers moi et d'autres ont été injustes. Mais je remercie le Seigneur d'avoir mis dans mon cœur le désir de me soumettre à eux, peu importe les circonstances, en autant qu'ils ne me demandent pas de faire quelque chose qui soit contraire à la parole de Dieu. Par exemple, une fois, ma patronne est allée chez la coiffeuse pendant ses heures de travail. Et puisque j'étais au travail pendant son absence, elle m'a demandé de mentir à ses supérieurs concernant son absence s'ils appelaient au bureau. Et je lui ai répondu que je ne pouvais pas faire ça, car c'était mal devant Dieu de mentir. Elle a donc demandé à quelqu'un d'autre de répondre au téléphone pendant mon absence. Et ceci l'a porté à agir un peu injustement envers moi dans les semaines qui ont suivi, dans les mois, jusqu'au jour où elle a perdu son emploi. Et elle l'a perdu injustement. Je ne lui souhaitais pas de mal, mais j'ai quand même vu la justice de Dieu s'accomplir. Maintenant, je suis à temps plein dans deux ministères, l'évangélisation ainsi que la louange à l'Église. Je remercie mon Dieu de m'avoir donné des patrons qui ont confiance en moi quand je ne suis pas en leur présence. Par exemple, c'est chez moi que je me prépare pour les émissions telles que celle qui est en cours présentement. Mon patron m'appelle jamais dans le but de savoir si je suis en train de travailler. Je crois qu'il a confiance en moi. Il sait que mon grand patron, c'est le Seigneur. Et le Seigneur voit tout ce que je fais. Et je sais que j'aurai à rendre compte de toutes mes actions devant Dieu un jour. En plus, c'est vraiment une joie pour moi de servir mon Dieu avec amour. Ce Dieu qui m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Alors Dieu veut qu'on marche avec une bonne conscience devant lui. Et à nous, ses enfants, il a donné son Esprit Saint pour nous conduire, pour nous faire réaliser quand on s'engage sur une mauvaise voie. Alors soyons à l'écoute de la voix de notre Dieu.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi. Ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appel.
Pour nous rejoindre, au téléphone
1-877-L'Espoir 1-877-537-7647 ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.